cours de philosophie première à la personne humaine par le père Marie-Dominique Philippe le 29 avril 1999 à Saint-Jodard.
Je vous disais hier en terminant que dans une perspective métaphysique, je crois que si on regarde le problème de la personne qui est la réalisation la plus parfaite de l'être pour nous. Vous voyez, au terme de l'analyse métaphysique de ce qui est en tant qu'être, nous regardons la manière dont se trouve réalisé cet être en tant qu'être. Dans nos expériences, je parle de l'homme, j'analyse l'homme puisque il existe, je l'analyse pour découvrir ce qu'il est au point de vue de l'être. En analysant l'être en tant qu'être, je m'élève au-delà de l'homme. Mon intelligence saisit la raison la ratio endis, et je saisis les principes propres de ce qui est. Mais ces principes propres de ce qui est, comment existent-ils? Vous voyez bien la question, pour que vous ne perdiez pas pédale. Comment existent-ils? Et pour moi, c'est important, puisque la métaphysique reste dans le concret. Elle ne s'évade pas de l'expérience, mais elle la dépasse. Mais c'est toute la différence avec la phénoménologie. La phénoménologie demeure dans l'expérience interne. Et je décris cette expérience interne. La philosophie dépasse l'expérience interne et externe pour analyser du point de vue de l'être, du point de vue du devenir, du point de vue de la vie et du point de vue de l'être. Donc j'analyse les principes propres de ce qui est en tant qu'être. Et les principes propres de ce qui est en tant qu'être, il n'y a pas de principe selon la cause matérielle. Il n'y a pas de principe propre de l'être selon la cause efficiente. Pas l'oublier, ça. C'est difficile pour nous, parce que nous sommes en face, dans notre monde d'aujourd'hui, de philosophies qui veulent être des philosophies de la matière, qui veulent être des philosophies de l'efficacité. Ces philosophies ne peuvent pas atteindre l'être, ils demeurent dans le devenir. Bon, je vous demande, là, d'y croire. Si vous n'avez pas encore découvert que ceci est vrai, d'y croire et de creuser ça, c'est capital pour nous. C'est la seule manière de rester fidèle à la vérité. Autrement, vous faites une confusion. Vous faites une confusion parce que dans l'ordre du devenir, découvrons la matière, nous découvrons l'efficience, mais dans l'ordre de ce qui est, qu'il existe d'une façon à travers le devenir, en impliquant la matière, en impliquant l'efficience, c'est vite bien évident. Le milieu dans lequel on est implique la matière et implique le devenir. C'est les premières choses qu'on voit. C'est cela qui commande tout notre conditionnement. Tout notre conditionnement est commandé par l'aspect potentiel de l'être. Tout le conditionnement de notre vie humaine est dans le devenir. Il n'y a pas de conditionnement dans l'ordre de l'être. Il y a des principes. Et le conditionnement répond à la question du pos. Comment ? Et dans le monde d'aujourd'hui, je prends la phénoménologie, puisque c'est sûrement la phénoménologie qui caractérise le mieux notre monde d'aujourd'hui. D'un point de vue-là, Hegel, qui, au dire des grands spécialistes, est dans l'ordre du conditionnement, le philosophe, si on peut encore l'appeler philosophe, le théologien, si on peut encore l'appeler théologien, et celui qui a voulu aller le plus loin dans l'ordre du conditionnement. Mais il n'a pas dépassé le conditionnement. Chaque fois que vous lisez un petit morceau de Hegel, que vous essayez de comprendre, surtout ne pas vous mettre dans une position métaphysique ou dans un éclairage métaphysique, vous n'y comprendrez rien. Mettez-vous dans un point de vue du conditionnement, du devenir. Oui, ça, c'est les clés qui sont importantes pour nous, pour regarder nos contemporains. Alors, de ce point de vue-là, ils sont intéressants. C'est évident. Mais ils sont intéressants dans la mesure même où vous avez creusé au point de vue de l'être suffisamment loin. Si vous n'avez pas creusé au point de vue de l'être suffisamment loin, vous vous laissez prendre au jeu. Et le conditionnement vous séduit. Les séductions ne sont pas du côté de l'être. Les séductions ne sont pas du côté du vrai. Les séductions ne sont pas du côté du bien. Mais les séductions sont du côté des vitrines. Hein, les vitrines. Ce qu'on manifeste. Il y a l'arrière-plan des vitrines. Il y a la caisse. Il y a l'arrière-plan des vitrines. Ils ne vont pas la visiter, c'est pas la peine. Tandis qu'au contraire, les vitrines, c'est ce qui se voit. C'est la manifestation. C'est la fantasia. Et la phénoménologie demeure dans cette perspective. Alors, c'est le conditionnement intérieur de la connaissance et de l'amour qu'on regarde. Et ceci montre bien que les grands-pères des phénoménologues sont théologiens. Il y a une parenté entre la phénoménologie et la théologie. Et cette parenté, elle est montrée dans saint Thomas. Vous ne pouvez pas connaître le ti esti de Dieu. Vous ne pouvez connaître que le conditionnement. Tout. Si on laïcise la théologie, je ne peux connaître que le conditionnement de ce qui est. Je ne peux connaître que le conditionnement de l'esprit. Je ne peux connaître que le conditionnement du vivant. Et alors, je me mets à essayer de le comprendre. La réalité profonde, je l'ignore. Vous voyez, Kant par derrière. Le noumen, je l'ignore. Je ne sais pas ce qu'il est. L'être, je ne sais pas ce qu'il est. La vie, la ratio vitae, je ne sais pas ce qu'elle est. La raison de l'esprit, je ne sais pas ce qu'il est. Mais je connais la manifestation. Et je m'arrête. Alors, à la place de l'analyse selon les quatre causes ou les cinq causes, l'analyse se fait toujours par les causes. Je décris. Il n'y a plus que la description. Ce que Merleau-Ponty a très bien compris. La phénoménologie de la perception. Lisez sa préface. Elle est excellente et montre bien. C'est une méthode descriptive. Ce n'est plus une analyse. Donc, ça ne forme pas l'intelligence. descriptif. C'est très beau. C'est facile. Tout le monde comprend une description, à moins d'être complètement bouché. Tout le monde comprend ce que c'est qu'une description, tandis que tout le monde ne comprend pas ce que c'est qu'une analyse. L'analyse, c'est entrer dans l'au-delà de la phénoménologie. C'est entrer dans l'au-delà de la manifestation. C'est entrer dans les principes. Et cela est capital. C'est absolument capital, ça. De comprendre l'aspect descriptif, l'aspect de l'analyse et des principes propres. Vous pouvez ensuite, dans la lumière des principes, comprendre le conditionnement. Mais le conditionnement ne se comprend pas par lui-même. Le devenir, le pantareil, tout coule, tout change, ne se comprend pas par lui-même. Vous ne pouvez pas saisir le devenir par lui-même. Impossible. Il n'y a pas de principe propre métaphysique de la matière et du devenir, et de l'efficience. Ça, saint Thomas le dit explicitement. Aristote l'avait dit avant lui, et saint Thomas l'a repris. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien à saint Thomas, parce qu'il se place au-delà. Et le comment de l'être, le comment de la vie, le comment de l'esprit, la scolastique l'a laissé tomber. Elle a voulu saisir que les définitions qui expriment l'essence de la chose, donc le tiesti. Vous n'avez pas de définition de la du conditionnement. Vous ne pouvez que décrire. Bon. Ceci, c'est le préambule réflexif, critique de ce que nous allons voir. Et c'est nécessaire d'être dit. C'est vrai depuis le début de notre étude sur la personne. Cette année-ci, toute la connaissance des principes est présupposée. Et nous regardons le comment de l'être humain. Le comment de l'être humain. Et ça, vous en avez l'expérience. Votre laboratoire, vous l'avez en vous. Comment vous pensez? Comment vous aimez? Comment vous êtes un? Comment vous vivez? Développer au point de vue moral. Comment vous dominez le milieu qui est autour de vous? La source fondamentale du comment vous portez en vous, votre corps. Est-ce que votre corps vous fait découvrir des principes propres? Non. Parce que le corps n'est pas premier du côté de l'être. On voudrait aujourd'hui que le corps soit premier au point de vue de l'être. On le voudrait bien. Et c'est très curieux que dans l'attitude, on veut à tout prix que l'âme soit créée dès le premier instant de la conception biologique. C'est un peu, vous voyez, pour dire, mais au fond, le corps est tellement intégré dans ma vie, dans mon être, que il n'y a pas d'espace entre le devenir corporel et la création de l'âme. Or ça, je ne peux pas le savoir. et le dire, l'affirmer, puisque de fait, ce n'est pas évident. Vous n'avez aucune preuve. C'est donc passionnel. Chaque fois qu'on dépasse, au point de vue philosophique, la connaissance rationnelle des principes, la connaissance intellectuelle des principes, cela se fait tout le temps par un point de vue passionnel. On met le doigt dessus. Alors c'est où une passion de droite apologétique, on défend à tout prix la vie de l'homme. On défend à tout prix la vie de l'homme. On la défend en cherchant la vérité. On la défend pas par nos opinions politiques, par nos opinions qui veulent à tout prix être apologétiques. Parce que l'apologétique ne saisit pas de principe, c'est la rhétorique, l'apologétique. C'est très intéressant. De bons apologètes, c'est très intéressant. Mais on ne peut pas s'appuyer dessus. Et puis il y a les apologètes de gauche. Ils veulent à tout prix que le marxisme soit vrai. Ça fait des apologètes de gauche. Quand vous voyez des marxistes très entêtés, des jeunes marxistes, la jeunesse marxiste. Et c'est pour discuter avec eux. Si vous en connaissez, soyez des amis. Pour qu'ils disent ce qu'ils portent le plus intime dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils portent le plus intime dans leur cœur? C'est la primauté de la matière. Tout est compris en référence avec la matière. Et donc, ce qui est source de ce que représente pour nous un développement second devient premier. Le conditionnement qui commence avec la matière. Est vu dans cette lumière-là. Et la finalité est remplacée par le fondement. C'est le fondement qui est premier de tout. Et alors, c'est intéressant de voir qu'on ne dépasse pas l'aspect du fondement matériel. Et dans la phénoménologie de droite, hegelienne, on ne dépasse pas le conditionnement spirituel de mon intelligence. Mais c'est le conditionnement de mon intelligence. Alors le conditionnement de mon intelligence, c'est la conscience que j'ai de ma vie intellectuelle. La conscience que j'ai. La conscience que vous avez de votre développement intellectuel ne vous fait pas toucher le réel existant, mais vous restez dans l'intentionnalité de votre vie intellectuelle ou de votre vie affective, parce que vous avez une faible vie qui est plus intelligible et l'autre qui est plus affective. Non, c'est sûr, parce que c'est le vécu dans l'ordre de l'amour, ou c'est le vécu dans l'ordre de la raison et de l'intelligibilité. Et là, vous êtes en présence de vous. C'est très intéressant. C'est sûr. Quand c'est intelligent, c'est très intéressant. C'est pas bête. Mais ça ne vous permet pas de vous dépasser. Et vous ne pouvez pas atteindre l'être premier. Donc, vous demeurez dans une sorte de raisonnement, de connaissance descriptive de votre manière de vivre, de votre manière d'être. votre pensée, de votre manière de penser, de votre manière d'aimer. Et ce n'est pas l'ami que vous regardez. Ce n'est pas la réalité existante. C'est la réalité existante en tant qu'elle est connue. Et de la réalité existante en tant qu'elle est connue, vous avez abstrait l'acuité. Et donc vous restez dans le domaine de l'intelligibilité, de l'intelligé, ce qui est connu, dans le domaine du concept, de l'énonciation, de ce qui est digéré par votre intelligence. À la place de regarder l'aliment, vous regardez ce qui est digéré par votre intelligence. C'est comme ça que Sartre regarde l'intelligence. Il prend des exemples comme cela. L'assimilation. L'assimilation est premièrement du côté végétatif. Et c'est sûr que autre chose est l'aliment, autre chose ce qui est digéré par vous. Et c'est curieux que ce qui est digéré par mon intelligence et par mon cœur, mon affectivité, a une telle séduction. Alors que l'aliment, quand il est une carotte, ou quand il est un navet, ou quand il est une pomme de terre, ou quand il est une viande saignante, a une autre séduction que ce qui est digéré par vous. C'est extraordinaire ça. Et on est séduit par ce qui est pensé, ce qui est aimé, et non plus par la bonté de l'ami. La réalité existante qui est source de cette intelligibilité. C'est toujours ce qui est second. Tout le conditionnement est second. Et c'est vrai que la matière comme telle est moins intelligible que ce que vous pensez de la matière. Alors voilà la séduction. La matière comme telle est brutale. Elle est violente. Ce qui est pensé de la matière est humain. Et va plus loin. Or, on pense la matière déjà depuis longtemps. Et donc ce qui est pensé par la matière, par tous les philosophes avant, c'est beaucoup plus intelligible que la matière comme telle. Et revenir à un réalisme, ça semble archéologique. Ah, vous revenez à Aristote. Et depuis, il y a beaucoup de pensées. Le monde a beaucoup pensé. Il y a beaucoup de philosophes. Il y a beaucoup de savants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les savants ont pensé de la matière. C'est ce que les savants ont pensé du corps. Moi, je ne vais pas tout reprendre, parce qu'on a dit beaucoup depuis. C'est vrai. Alors, si je me place de ce côté-là, je comprends très bien la très grande séduction de la féologie. Parce que je suis au terme d'une évolution de pensée sur le corps. Je regarde tout ce que les savants ont pu dire. Je regarde tout ce que les philosophes ont pu dire. Je suis au terme. Donc je suis l'être le plus évolué. Dans l'ordre de la féologie, je suis toujours l'être le plus évolué, donc le plus intelligent, forcément. Avant moi, ils ont tous balbutié. Et alors là, il y a une séduction énorme, comme vanité, comme désir d'apparaître, comme l'ultime évolution de la pensée. Parce que je respecte tous ceux qui ont pensé avant. Et je montre que je pense mieux qu'eux. Parce que je me sers d'eux. Ils sont comme une échelle qui m'en permette. Vois très bien cette séduction. Faites une topic historique. C'est très intéressant, il faut le faire. Tout ce que les philosophes vont dire sur le corps. Et je dirais sur le corps, c'est particulièrement intéressant. Parce que c'est un domaine où l'aspect descriptif me dit beaucoup plus que l'analyse philosophique. Dans l'analyse philosophique du corps, je laisse tomber le corps. Il est second. Il est premier dans le devenir. Mais il est toujours dans le devenir. Or le devenir, ça passe. Alors dans quelle mesure, grave question actuelle, dans quelle mesure il y a mémoire du corps? C'est une question très actuelle. Parce qu'on veut que tout vienne de la matière. Il y a ça derrière, il ne faut pas l'oublier. On veut exalter la cause matérielle. Je crois, au point de vue de l'histoire de la pensée, jamais on a autant exalté la matière que dans le XXe siècle. On veut que la matière explique tout et détermine tout, me donne l'intelligibilité de tout. Alors pour que le corps donne l'intelligibilité de tout, il faut que le corps garde tout ce qu'il a vécu. Le corps garde tout ce qu'il a vécu. Vous en avez vécu, hein? Mais j'en ai encore vécu bien plus que vous, donc écoutez-moi. Au point de vue de la cause matérielle, j'en sais beaucoup plus que vous. Parce qu'il y a quand même une certaine différence d'âge. Alors, voyez la mémoire. La mémoire de mon corps, comparativement à la mémoire de votre corps. Votre corps, hein, 30 ans, 35 ans, 40 ans, le double, 80. Or, la mémoire relativise, forcée. Chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau, tout le reste est relativisé. Alors, je veux redécouvrir ce premier. Là, il y a une question très grave et très importante. Je crois que c'est très important, ça. Mais c'est essayer de comprendre. Parce qu'on parle beaucoup de ça, de la mémoire du corps. Écoutez ce que vous dit votre corps. Bon, il ne me parle pas. Sans doute qu'il est étouffé par la métaphysique, je reconnais. L'intelligence parle métaphysique. Alors l'intelligence du corps, en face de la métaphysique, qui met avant tout l'acte et la finalité. Je n'ai pas de mémoire de la finalité. Oh, oh. Non, vous n'avez pas de mémoire de la finalité. Plus vous avancez, plus la finalité est proche. Et plus vous considérez que ce qui est avant, mais oui, c'est avant, j'étais bête avant, l'âge bête, des fois ça dure très longtemps, l'âge bête, on n'arrive pas à se dépasser. Pour dépasser l'âge bête, il faut découvrir la finalité, la recherche de la vérité, qui n'est plus la mémoire. La recherche de la vérité, la recherche de la vérité est actuelle. Je crois que c'est très très important ce que nous essayons d'étudier ici, de voir que le corps est non pas un principe premier, il est une sorte de réalité contemporaine à toute ma vie, et peut-être même antérieure, et ça je peux le dire, antérieure à ma conscience intellectuelle. laissant ma métaphysique de côté, j'arriverai à me replonger dans le sein maternel. Heureusement que certains ont dit, enfin, je sais comment peut-on retourner dans le sein maternel quand on a 50 ans? Comment veut-on retourner le sein maternel quand on a 80 ans? Comment veut-on retourner le sein maternel quand on a 10 ans? Encore moins. Parce que quand on a 10 ans, on vit de demain. Toujours demain. Ce que la jeunesse a soif, c'est de demain. C'est pas ce qui s'est passé, mais non. C'est tant qu'on commence à vieillir. Quand on commence à vieillir, alors le potentiel de notre réflexion, c'est le passé. C'est affolant, parce que vous ne pouvez pas le changer. Le passé a un absolu, inchangeable. Il est nécessaire, il s'impose comme nécessaire, parce qu'il est passé. Vous faites du contingent un absolu. Ah. Passé, c'est le contingent. C'est pas l'éternel. Il n'y aura plus de passé dans le ciel. Pauvre mémoire du corps. Il n'y aura plus de passé dans le ciel. Mon corps sera glorifié. Il sera éternel. Comment curieux. Il n'y aura plus de conditionnement. Non. Il n'y aura plus de féminologie. Non. Fini. Et j'ai le droit de faire un jugement de sagesse. Jugement de sagesse. Jugement de sagesse est très important pour comprendre le conditionnement. Je sais qu'il existe mon conditionnement et qu'il s'impose. Et mon conditionnement est plus fort quand je dépasse un certain âge. C'est très vrai. Je suis plus conditionné que vous. Ça, c'est vrai. Et c'est le propre de la vieillesse. On n'est plus conditionné. Mais si la métaphysique est là, mon conditionnement est plus intelligible que le vôtre. Tiens, tiens, là, je me rattrape. Mon conditionnement est plus intelligible que le vôtre. Parce que je distingue mieux mon conditionnement et ma finalité. Si je distingue mieux mon conditionnement et ma finalité, jusqu'au moment où ce serait d'un âge, le gagatisme. Le gagatisme, c'est confondre le conditionnement et la finalité. Je me souviens, il y avait un bon père dominicain qui était très âgé. Et il avait complètement oublié tout passé. Il avait écrit l'histoire des maîtres généraux des dominicains. Et j'avais la collection chez moi. Alors je voulais qu'il signe avant qu'il meure. Alors je lui envoie le clip, puis je lui demande. Je dis, c'est pour le noviciat. Alors je regarde, signé. Mais c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui. Confondu le passé et la finalité. J'ai mis au moins un quart d'heure avant de lui faire comprendre que c'était bien lui. Donc je réactuais son passé. Et je voyais que pour de fait y revivre, il aurait fallu tous les matins lui demander de signer ses œuvres passées pour réactuer le passé et faire que le passé soit existant. Bon, c'est pas notre plaisir de réactuer le passé. Hein. Examen de conscience, le passé, il est passé. Et nous savons que si nous demandons pardon au Seigneur, tout est pardonné. Donc, le passé s'est volatilisé au point de vue moral. Vous ne pouvez pas réactuer votre responsabilité. Vous vous rappelez de votre responsabilité. Vous ne pouvez pas la réactuer. Point de vue existentiel. Non. Et il est impossible de le changer. Il est. Il devient une nécessité. Mais il n'est pas nécessaire du tout. Il s'est passé de façon contingente. Et c'est curieux, ça apparaît comme nécessaire. Tout ça vient, ça. Il est nécessaire parce qu'il a existé. Mais il a existé. Sa nécessité est intentionnelle. Sa nécessité n'est pas existentielle. Le passé est le passé. Vous ne pouvez pas le réactuer. À moins que vous sachiez ressusciter les morts. Mais ce n'est pas en votre pouvoir de ressusciter les morts, ni dans le mien. Je ne peux pas ressusciter mon passé. Et donc, je regarde mon passé avec l'intelligibilité actuelle que j'ai de mes actes. Je le grossis. Normalement, j'ai une conscience plus délicate à 40 ans que à 18 ans, que à 7 ans. Je crois. Nous sommes de plus en plus actués par notre finalité. Et à 80 ans, on a une acuité plus grande de sa conscience, de sa responsabilité. Alors, je vais revivre le passé dans la lumière actuelle. Ne jugeons jamais notre passé avec la conscience actuelle que nous avons de notre responsabilité. Parce que nous n'avions pas cette responsabilité à ce moment. Je ne peux pas. Ce que je peux, c'est le remettre à Dieu. C'est le remettre au Christ. Mais je ne peux pas. Parce que j'ai une acuité beaucoup plus grande actuellement. Vous voyez, la conscience du corps, la mémoire du corps. Et c'est vrai, il y a là un problème philosophique extrêmement important. Aujourd'hui, depuis qu'il y a cette exaltation de la matière, si forte, si grande, il faut que nous comprenions ça avec beaucoup, beaucoup de netteté. Il n'y a pas de principe propre de la matière. Ça va très loin, ça. Il n'y a pas de principe propre. La matière, c'est le lieu de la contingence. Le démon. Alors là, en théologie, nota bene, c'est pas de la philo, mais c'est intéressant. Le démon ne connaît pas la matière. Mais il connaît gonflement, l'exaltation de la matière par l'imaginaire. Tandis que nous avons ce privilège de connaître la matière pure puissance, la materia prima pure puissance, la matière comme principe pure puissance. Or, la puissance n'est connu que par l'acte. Donc, je ne connais la matière que comme une source d'indétermination qui attend la détermination. Et qu'est-ce qui la détermine? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que la matière s'auto-détermine? Est-ce que la matière peut se déterminer elle-même? Non, elle ne peut pas. Elle se détermine par l'acte. Donc, par ma connaissance actuelle, c'est moi qui la détermine, c'est moi qui lui donne sens. Alors faisons attention, je peux, à l'égard de ce que je vis maintenant, comprendre exactement le conditionnement. En faisant un cours, je sais ce que c'est que le conditionnement. Si je suis fatigué, si je n'ai pas eu le temps de réfléchir avant, je sais ce que représente le conditionnement. Et je sais aussi, alors si et plus je comprends la distance entre l'acte et la puissance, mieux je comprends ça. Et je le comprends grâce à la finalité. La finalité, c'est l'acte. Et plus je saisis cet acte, c'est la fin, c'est l'acte, plus je le saisis, plus je vois que l'acte est ce qui donne à la puissance son intelligibilité. Que la puissance par elle-même n'a pas d'intelligibilité. Alors, le corps, il est du côté de la matière, il est du côté de la quantité. Mon corps est visible grâce à la quantité. La matière comme telle n'est pas visible. Vous ne l'avez jamais touché. Vous touchez votre corps par les qualités issues de la quantité. Les qualités purement intérieures, comme l'amour. Vous ne le saisissez plus par votre corps. Vous le saisissez comme au-delà de votre corps. Vous avez donc en vous conscience de ce qui vient de la quantité. Et vous avez en vous conscience de ce qui vient de votre esprit. Phénoménologie de droite, phénoménologie de gauche. Vous voyez bien, j'ai les deux. Et je saisis mon corps de deux manières. Je le saisis comme instrument de mon âme. Et je saisis mon corps comme faisant partie de mon être, informé par mon âme, instrument conjoint et ce qui conditionne toute ma vie. J'ai toujours cette vision double de mon corps. Je ne peux pas ramener mon corps à l'unité. Donc, mon corps est source de ma complexité. Non, c'est bien évident. Et si je ne regarde que mon corps, je n'aurai jamais la possibilité de retrouver l'unité. Plus je regarde mon corps, plus je suis dans la complexité. C'est du reste très net. C'est dès que j'ai mal à la tête, dès que j'ai mal à la main, dès que j'ai mal à l'estomac, dès que j'ai mal au foie, je vois la complexité de mon être. Alors que avant, quand tout va bien, je suis un sportif qui a l'expérience de l'unité de son corps. Le sportif. Mon corps fait tout ce que je veux. Quand vous voyez des gosses faire du ski, c'est merveilleux. Et vous voulez faire après eux la même chose et vous cassez la jambe. Et eux ne cassent rien. Ils ont la possibilité d'une souplesse extraordinaire. Merveilleuse. Voyez le conditionnement. Alors si la mémoire du corps, c'est tout simplement ce fait que la vieillesse s'inscrit dans mon corps. Le temps est inscrit dans mon corps. Ça, c'est sûr. Le temps est inscrit dans mon corps. C'est dans ce sens-là que les années passées sont inscrites dans mon corps. Je ne peux pas les rayer. Ça existe dans mon corps. Mais est-ce que c'est la mémoire du corps? Non. C'est le corps dans sa passivité. La mémoire, c'est quand même actuel. Mon corps, dans sa passivité, garde les blessures. C'est vrai. Et les blessures sont marquées dans mon corps. Je me suis cassé le bras à tel âge. Je le vois simplement, c'est la passivité du corps. La passivité du corps qui a gardé ses marques et qui les a gardées fortement. Et peut-être que je ne sens plus rien du tout. Alors, puisque je ne sens plus rien du tout, tout ça, je m'en occupe pas. Mais si je regarde dans un regard particulier, dans une vision particulière, possible aujourd'hui, on peut par des rayons particuliers voir de l'intérieur ce qui se passe au-dedans. Mes os et les cassements de mes os, c'est le développement de mes os. C'est pas la mémoire. Oui, c'est métaphorique. Alors faisons attention. Le philosophe distingue toujours ce qui est métaphorique de ce qui est réel. Il faut distinguer les deux. Alors, c'est vrai que le corps garde, et c'est vrai que cela peut avoir des répercussions. Dès que j'ai été blessé, je suis beaucoup plus vulnérable. Je le sais, tant que la blessure reste, hein, que quelqu'un, sans faire attention, me bouscule, aïe, tout de suite, et lui s'en est pas aperçu, parce que j'ai caressé comme d'habitude. Caresse un peu à la manière ours, c'est possible, mais d'habitude ça faisait rien, mais entre deux il y a une blessure. Ah, et la blessure fait qu'on a une vulnérabilité bien plus grande. Alors cette blessure, petit à petit la pourpousse, on la voit plus, elle reste beaucoup plus longtemps à l'intérieur. Donc il y a une vulnérabilité plus grande. Et cette vulnérabilité est le signe, pour moi, de la potentialité du corps. Et que cette potentialité, à cause non pas de la quantité, non pas des qualités, mais à cause de la matière, cette potentialité est matérielle et substantielle. Et donc, elle peut rester jusqu'à la fin de nos jours. Alors, ce qu'on peut détecter, c'est les vulnérabilités plus grandes. Ça, c'est très juste. Le corps porte des vulnérabilités toujours plus fortes. Pour certains, c'est rien. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui ébranle tout. Une vulnérabilité radicale qui vient du corps. Mais est-ce que la vulnérabilité est une mémoire? Non. C'est la conséquence d'une blessure. C'est la conséquence d'une violence. Il y a eu une violence. Cette violence a pu être physique, elle a pu être psychique. Et des deux côtés, on voit cette vulnérabilité. Alors, vous voyez, c'est quand même très important les mots. Parce que petit à petit, on ne pense plus et on garde les mots. Et on ne distingue plus le métaphorique et ce qui est propre. Ce que le philosophe doit faire. Ce que Heidegger dit, distinguer le moutos du logos. Alors quand Heidegger dit ça, on voit très bien, le moutos, c'est le métaphorique. Et le mythe, tous les mythes sont métaphoriques. Et puis le logos, c'est l'intelligibilité propre. Alors, je pose la question, je cherche avec vous, hein. Comme c'est un problème très actuel, c'est important que le philosophe le regarde, et c'est au niveau métaphysique, au niveau de la personne, que je dois le regarder. Un regard philosophique, métaphysique, sur la personne. Et on regardera après un regard de sagesse sur la personne. Mais j'ai d'abord un regard métaphysique. Le corps est conditionnement substantiel. Substantiel, donc, coexistant à mon âme, et même antérieur. Je crois que mon corps existait avant mon âme. Il existait en vue de mon âme. Je crois. Tu ne peux pas l'affirmer. Hein. Alors, vous pouvez penser autrement. J'aimerais que vous mettiez les raisons. et la causalité qui vient d'autre part. Alors, c'est intéressant de voir s'il y a une coexistence par rapport au temps. Pas nécessairement. Et c'est intéressant de savoir ce qu'on peut dire au point de vue philosophique, ce qu'on ne peut pas dire au point de vue philosophique. Donc, tout ce que je vous ai dit là, c'est une recherche. Et on peut. C'est la différence de l'enseignement universitaire et de l'enseignement monastique. C'est qu'on peut avoir la revue Metaxu en recherche. Et pas uniquement dire ce qu'on sait. On cherche. Et un des grands sujets d'aujourd'hui, c'est ça. Parce que la causalité matérielle aujourd'hui est mise en pleine lumière. Alors c'est intéressant de comprendre à partir de là le métaphorique. Le métaphorique qui reste toujours, comme dit Platon, mythique. On crée des mythes. On crée des mythes. Et Platon dit on crée des mythes à partir de la matière. Et on crée des mythes dans l'au-delà, à partir du monde de l'au-delà. Parce que là, on n'a pas d'expérience philosophique directe. C'est vrai, je ne peux pas avoir une expérience de mon passé. Une expérience réelle, existentielle. Mon passé n'existe pas.